France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, la science du changement de camp. Épisode 5, Jacques Soustelle entre deux eaux. Les bizarres conversations téléphoniques entre eux avaient commencé à partir de 1961. Jacques Soustelle s'était mis à parler avec sa femme dans un langage incompréhensible. Il demandait « Quentinemi, Quentica » et elle répondait « Quali ni itstoc, amo ximotequipaccio ». Des phrases qui avaient peu de chances d'être comprises par des policiers français qui auraient mis leur téléphone sur écoute, car la formation de ces fonctionnaires n'implique pas l'apprentissage de la langue aztèque. Cet idiome mexicain, le Nahuatl, Soustelle et sa femme l'avaient appris ensemble, sur le terrain, lors de leurs recherches en anthropologie quand ils travaillaient sur les civilisations précolombiennes. Mais en ce début des années 60, bien des choses avaient changé depuis cette époque de leur thèse, depuis que ce résistant, socialiste, puis gaulliste de la première heure avait apporté son soutien à l'OAS, l'organisation armée secrète, ce groupe terroriste d'extrême droite qui avait tout tenté pour faire dérailler le processus de paix devant conclure à l'indépendance de l'Algérie. C'est pour sa proximité avec l'OAS qu'il craignait d'être arrêté par la police, d'où le langage codé. D'ailleurs, Jacques Soustelle était sur le point de quitter la France, clandestinement. Pour brouiller les pistes, il va beaucoup bouger en Europe. Belgique, Allemagne, Portugal. À vrai dire, près de 60 ans après cette cavale, on ne sait toujours pas très bien par où il est passé. Mais c'est en Italie qu'on retrouve finalement sa trace, le 20 août 1962.
Maintenant, Jean-Pierre Jandot, il nous faut reparler de Jacques Soustelle. De Jacques Soustelle dont la trace se perd, pour les journalistes, à partir de Milan.
De toute façon, il est à peu près certain que M. Soustelle n'est plus en Italie. Le sous-préfet de Milan a déclaré hier soir « Je vous confirme que Jacques Soustelle est parti, mais je ne peux pas vous dire comment il est parti ni pour quelle destination. » Voilà donc un point d'acquis. Mais nous n'en sommes pas plus renseignés pour cela. M. Soustelle n'est pas en Autriche ni en Suisse, où l'on répond depuis hier soir « Nous ne désirons pas la présence de M. Soustelle dans notre pays, il le sait. Notre police frontalière a été invitée à lui prêter tout spécialement attention. » Il est improbable qu'il soit passé inaperçu d'elle, si bien que l'on commence à parler maintenant de l'Amérique du Sud.
Et sur son arrestation, Milan, a-t-on donné d'autres précisions?
Le chef de cabinet de la préfecture a indiqué que M. Soustelle avait déclaré qu'il était venu en Italie sans savoir qu'il y était considéré comme indésirable. Jacques Soustelle a précisé qu'il venait d'Allemagne fédérale.
Mais alors, une nouvelle question, que faisait M. Soustelle en Italie?
Eh bien là, on en est déduit aux hypothèses. Vous savez que l'on a parlé de réunions secrètes de chefs de l'OAS sur les bords du lac de Garde. On a beaucoup parlé également de contacts que Jacques Soustelle aurait eu avec certains éléments italiens d'extrême droite, des dirigeants notamment du mouvement social italien, parti néo-fasciste.
Voilà donc un homme qui a changé de camp et qui l'a même fait plusieurs fois. Un personnage dont le parcours pose la question du choix entre la fidélité à un homme et la fidélité à une cause. Et ce sont des circonstances historiques dramatiques qui vont servir de révélateur à son idéologie profonde.
La science du changement de camp, une série en 6 épisodes de Mathieu Garrigou-Lagrange. Réalisation Delphine Lemaire, attachée de production Lily Cornaer.
Le parcours de Soustelle débute en 1912 à Montpellier, où il naît dans une famille très modeste. C'est un enfant, puis un adolescent brillant, toujours premier en tout, qui intègre l'école normale supérieure de la rue d'Ulm dans une classe de philosophie. Mais sa curiosité le conduit à se passionner pour l'ethnologie, au contact de grands professeurs comme Marcel Mauss, que l'on considère parfois comme le père de l'ethnologie française, ou de quelqu'un comme Paul Rivet, l'homme à l'origine du Musée de l'Homme, justement, à Paris. Son épouse, Georgette Fagot, est également ethnologue, et tous deux partent ensemble au Mexique pour travailler sur leur thèse, expérience qui fait d'eux des admirateurs du métissage et du dialogue des cultures, thématique a priori peu compatible avec les idées de l'extrême droite. En 1936, Soustelle soutient le Front Populaire. D'ailleurs, politiquement, il se situe alors clairement à gauche. Mobilisé en 1939, il est envoyé en Amérique latine avec pour mission d'y contrer la propagande nazie. Puis, après la défaite de la France au moment de l'armistice, il n'hésite pas une seconde et rejoint à Londres le général de Gaulle. Étienne Augry, vous êtes historien et vous faites paraître aux éditions Novice le livre « Changer de camp, 14 volte-face au XXe siècle » dans lequel vous avez rédigé le chapitre consacré à Jacques Soustelle. En 1940, c'est donc un homme de gauche qui va rejoindre le général de Gaulle dans les premiers mois de la France libre. Est-ce déjà un premier changement de camp ?
Oui et non, c'est-à-dire que il ne s'agit pas ici d'idéologie, il s'agit bien du sort de la France au moment, enfin juste après l'appel que lance Philippe Pétain à renoncer au combat. Donc là, on est plus dans un combat qui dépasse les clivages idéologiques traditionnels et on a naturellement cette réponse de Soustelle à l'autre appel qui est lancé par De Gaulle à résister.
En tout cas, c'est plus que simplement une envie de résister, c'est aussi l'envie de suivre le grand homme qu'est pour Soustelle le général De Gaulle.
Oui, c'est un exemple. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la manière dont Soustelle raconte cette première rencontre avec De Gaulle, c'est qu'elle se passe plutôt bien. Et effectivement, il va être, après une première phase où il retourne en Amérique latine, une phase de travail direct, quotidien, entre les deux hommes, au cours duquel Soustelle a développé cette admiration pour De Gaulle, qui est devenu un aspect important de sa vie et de son engagement politique.
D'ailleurs, c'est un baron du gaullisme de la France libre. Il est ministre de la France libre en charge de l'information. Est-ce que vous diriez qu'il est subjugué par le général De Gaulle et qu'est-ce qu'il admire au fond dans le général ?
Alors, baron, oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de titre officiel de baron du gaullisme. Il ne fait pas partie des personnages les plus importants qu'on peut considérer comme des barons, même si peut-être c'est lié à la fin de l'histoire, bien sûr. Ce qu'il admire dans De Gaulle, c'est bien sûr sa capacité à dire non et à incarner quelque chose, à incarner une résistance à la défaite, une résistance à une force occupante. Donc, il a cette admiration pour la clarté du combat de De Gaulle, et sa dimension patriotique. Vous parlez tout à l'heure des années 30, il a bien entendu un combat antifasciste, hein, il fait partie du comité de vigilance antifasciste que crée justement Paul Rivet. Donc peut-être qu'il se retrouve aussi sur ce terrain-là, de la lutte contre le fascisme, d'un point de vue idéologique, mais aussi la lutte contre un occupant.
Mais leur relation à tous les deux, De Gaulle-Soustelle, va tout de même se dégrader. Et on a le sentiment que De Gaulle le regarde de haut, et que parfois il est un peu dur même avec Soustelle.
On va dire que ça se dégrade fortement à partir du début des années 50. Donc il y a quand même une petite dizaine d'années de collaboration étroite et assez proche et de relativement bonne entente. La relation entre De Gaulle et ceux qui le servent ou ceux qui le suivent et qui l'admirent, elle est forcément inégale. L'humiliation n'est pas absente. C'est-à-dire que De Gaulle va très loin et demande à la fois une fidélité et une loyauté très forte, qui va entraîner pour ses collaborateurs et pour Soustelle en particulier de passer par des souffrances et des dilemmes très forts.
Oui, ce qui peut expliquer en partie comment Soustelle va ensuite se retourner contre celui qu'il considérait comme son mentor. Quand, par exemple, De Gaulle dit de lui avec une certaine cruauté en 1958, alors qu'il vient de réchapper à un attentat, « Ah, Soustelle a enfin entendu siffler les balles », sous-entendu, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment battu. On comprend à quel point la relation entre eux peut être difficile.
Oui, et pour moi, c'est une des clés de compréhension du basculement, du changement de camp. À un moment donné, Soustelle ne peut plus continuer à avaler des couleuvres ou à subir ces humiliations-là.
Et puis il y a aussi, peut-être en germe, dans l'homme de gauche qui est encore Soustelle dans ces années-là, malgré tout, un fervent anticommunisme. Et ça va grandir au fur et à mesure de l'évolution de Jacques Soustelle et ça va être précisément une sorte de socle à son changement de camp.
Oui, on peut dire que c'est peut-être une des constantes de Soustelle, même si, vous l'avez rappelé, il soutient le Front populaire, mais c'est un soutien vigilant par rapport à ces questions-là. Et effectivement, son anticommunisme explique sans doute en partie pourquoi il se raidit vis-à-vis de la question algérienne. C'est-à-dire que pour lui, il ne peut pas y avoir d'évolution vers l'indépendance parce que une Algérie indépendante, c'est une Algérie qui serait prise entre, finalement, l'islam et le communisme.
En 1952, Soustelle est une personnalité politique importante, à tel point que Vincent Auriol, à l'époque président de la République, lui propose de former un gouvernement. Soustelle, très critique vis-à-vis de la 4ème République, refuse.
Monsieur le Président, vous devez avoir la mobilité d'avancer jusqu'ici pour les photographes. Est-ce que nous pouvons vous demander si vous avez accepté la mission de former le cabinet ?
Je vais vous répondre, messieurs, en y ajoutant quelques considérations qui peuvent peut-être vous intéresser. Monsieur le Président de la République a bien voulu me proposer de former le gouvernement. Je l'en ai remercié en ajoutant que la désignation qui m'était ainsi proposée par lui suffirait, s'il en était besoin, à faire justice des imputations quelquefois répandues selon lesquelles le Rassemblement ne présenterait pas un caractère vraiment républicain. Dans l'immédiat, nous considérons que la première phase de la crise, celle de l'indispensable clarification politique, n'est pas achevée. Notre intervention à ce stade serait donc prématurée et ne pourrait qu'ajouter à la perte de temps que subit le pays. Telles sont, messieurs, les raisons pour lesquelles j'ai cru devoir décliner dans le présent l'offre qui m'a été faite. J'ajoute que j'ai conscience d'avoir parlé, non point en candidat à une charge publique si honorable soit-elle, mais en porte-parole d'un vaste mouvement national animé dans ses différentes instances d'un même esprit et dont tous ceux qu'il compose agissent en toutes circonstances selon son mandat et sa désignation.
Ce qui est intéressant dans cette archive, c'est autant ce qui est dit que ce qui n'est pas dit et ce qui se passe dans la coulisse. C'est-à-dire qu'il est assez normal que Soustel soit appelé par le président de la République, Vincent Auriol. On est face à une des nombreuses crises ministérielles. Soustel est le chef du principal groupe parlementaire, en tout cas le celui qui est le plus nombreux. Et ce parti qui est le plus nombreux à l'Assemblée, sur instruction de De Gaulle, refuse par principe de participer à des institutions sans pouvoir les transformer. Et donc, Soustelle est l'homme qui doit gérer finalement ce dilemme entre De Gaulle qui dit non à toute participation et ses députés qui diraient pas non sur un poste, pourquoi pas, ministériel. Et lui, il doit gérer ça et finalement, il essaie de consulter De Gaulle. Mais là, dans cet extrait qu'on entend, il ne cite pas De Gaulle précisément. On a l'impression que c'est, il parle pour lui-même et il dit je, il parle d'un mouvement, mais on n'entend pas on n'entend pas la référence à
trahison,
De Gaulle.
Trahison alors ?
On n'est pas dans le cas du trahison, il pense bien faire. Mais ensuite, il retourne rue de Solferino, enfin, il va à rue de Solferino, qui est le siège du RPF précisément, où l'attend De Gaulle, qui pour une fois n'est pas à Colombey, et qui est en train d'ironiser sur le fait que, alors Soustel, là, qu'est-ce qu'il va me proposer s'il est président du Conseil? Est-ce qu'il va me mettre au sport, comme sous-secrétaire au sport? Et donc, Soustel, après cette déclaration, arrive rue de Solferino, et il se fait de nouveau humilier, cette fois-ci, là, publiquement, devant les membres du RPF qui sont rassemblés. Donc, on est face à ces moments-là où Soustel est mis dans une position impossible à tenir politiquement, mais où De Gaulle à la fois lui demande d'y aller, mais lui en veut pour le fait d'y aller. Donc, une situation vraiment très inconfortable. Et je pense que dans cette année 52 et dans ces moments, se joue quelque chose d'irrémédiable entre les deux hommes. C'est-à-dire que, bien sûr, ils vont continuer à travailler ensemble, mais déjà, il y a quelque chose qui est cassé entre les deux.
En 1955, Soustelle devient gouverneur général de l'Algérie. Il est alors une sorte de super-préfet, tandis que les violences se multiplient depuis l'insurrection du FLN en novembre 1954. Étienne Augry, en tant que préfet, le rôle de Soustelle à cette époque, c'est de faire en sorte que l'Algérie reste française, clairement. Est-ce que vous diriez qu'à cette époque-là, il est déjà sur une pente qui va le rapprocher de l'OAS, en tous les cas très Algérie française ?
Alors l'OAS, on est très loin de ça et il est plutôt nommé avec une réputation d'être un libéral au sens où on peut l'entendre à cette époque-là par rapport au contexte colonial, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à faire des concessions, quelqu'un qui est prêt à mener une politique vraiment de reconnaissance des droits des uns et des autres. Et donc c'est le gouvernement Mendès-France dont François Mitterrand est ministre de l'Intérieur, c'est ce gouvernement-là qui l'envoie et il est très très mal accueilli par les Européens d'Algérie, c'est-à-dire qu'on pense qu'il est venu pour brader l'Algérie, hein, et visiblement, c'est pas du tout comme vous le dites, c'est pas du tout ce qui va se passer par la suite. Donc lui, il vient pour mettre en œuvre une politique qu'on va qualifier d'intégration, c'est-à-dire d'établissement d'une véritable égalité. Et cette politique, sans doute, elle est ambitieuse, mais elle se heurte à une impasse qui est quelque part le fait qu'elle fasse abstraction de la situation coloniale. C'est-à-dire que je pense qu'un des points d'aveuglement de Soustelle face à cette situation, et il va se raidir sur le terrain, c'est de ne pas suffisamment comprendre que la revendication d'indépendance des Algériens, elle peut avoir des fondements légitimes. Donc, il mène à la fois quelque chose, une politique qui est très ambitieuse, et son entourage est constitué de personnes très progressistes, très ambitieuses, Germaine Tillion en particulier, Vincent Monteil, Jacques Juillet, qui constituent son entourage, mais qui constatent que, petit à petit, Soustelle se raidit face à une situation, notamment sur la question de la violence et de l'usage de la violence dans ce contexte-là.
Alors comment on explique ce raidissement de la part d'un homme dont vous venez de citer l'entourage, de la part d'un homme qui est ethnologue, quelqu'un qui réfléchit sur les cultures et qui devrait donc comprendre le droit et la volonté d'autodétermination du peuple algérien?
Peut-être que c'est pas si paradoxal que ça, c'est-à-dire que ce qu'il a vu à l'œuvre au Mexique dans les années 30, c'est peut-être justement la réussite de l'intégration, ou une certaine réussite d'un métissage. Hein, il a travaillé auprès de différents groupes, mais en particulier auprès de populations mayas. Et peut-être que c'est ça qu'il veut faire en Algérie, mais l'Algérie et le Mexique sont bien sûr dans des situations différentes, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que ça le rend aveugle sur la situation coloniale. Et le fait qu'il considère par principe que toute revendication d'une indépendance est illégitime parce qu'il a un autre idéal en tête qui est celui d'une Algérie qui serait pleinement intégrée, pleinement métissée. Mais d'une part, c'est bien trop tard, sans doute, et puis sans doute, ce combat-là est perdu d'avance.
Le 13 mai 1958, Alger est en ébullition. Le gouvernement général a été envahi. La foule, soutenue par des militaires et des colons, réclame que l'Algérie reste française. À Paris, par ricochet, le gouvernement vacille et De Gaulle se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République. Le 1er juin 1958, le général est en effet investi président du Conseil. Le 4, il prononce sa célèbre phrase « Je vous ai compris ». Le 6, il est à Mostaganem, les reporters de la RTF aussi.
J'ai laissé parler la foule qui m'a relayé. Je pense que ces cris sont encore plus convaincants que toutes les explications que je pourrais en donner. En ce moment, une petite alouette survole la place. On ne l'entend pas tellement les cris de la foule sont forts et vivaces. Marcel Amrouche, à vous.
Je crois, Pierre-Olivier Martin, que le général de Gaulle dépose actuellement une gerbe au pied du monument. Et à peine si nous parviennent d'ici, les accents de la Marseillaise qu'on joue, si je ne me trompe.
Ah, voici les photographes qui arrivent, donc, et des parachutistes qui frayent un chemin au général de Gaulle. Le voici, il est juste devant la mairie, au-dessous de moi. Et derrière lui, je reconnais le général Elie. Le général Retoré, M. Siscara, que je vois m'avancer, M. Soustel. Général Massu. Voilà, le général a pénétré dans la mairie et par l'escalier intérieur, il va apparaître bientôt sur l'estrade aménagée au-dessus du grand portique de l'hôtel de ville.
Qu'est-ce que vous retenez, Étienne Augry, de cette archive ?
Il y a une ambiance assez particulière qui témoigne de ce qui s'est passé le mois précédent, au mois de mai, au mois de juin. Cette foule qui va prendre le pouvoir avec le soutien de l'armée et qui va appeler De Gaulle au pouvoir. Et là, on entend pas mal de choses. On entend des vives De Gaulle. On comprend que la foule est à la fois, enfin, crie aussi Algérie française. Donc on a cette foule qui associe les deux causes. Algérie française et De Gaulle, c'est-à-dire qu'on est dans un moment intéressant, c'est-à-dire que finalement, Soustelle a tout pour accomplir ses deux objectifs, hein, celui de l'Algérie française, qui est devenu depuis 55-56 son objectif principal, et son gaullisme, le retour au pouvoir du général De Gaulle. Donc tout se passe bien, pour le mieux, dans le meilleur des mondes, mais finalement, on est au cœur des tensions entre les deux hommes. Pas à Mostaganem, mais à Oran en particulier. Il y a la foule qui crie « Vive Soustelle » et De Gaulle va leur demander de se taire carrément. Hein. Donc on est dans une situation un peu paradoxale où, de nouveau, sur le plan personnel, on ne sait pas bien ce qui se passe. En tout cas, De Gaulle semble un petit peu jaloux de la popularité de Soustelle en Algérie.
Je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter.
Le 16 septembre suivant, c'est le discours de De Gaulle qui annonce qu'il y aura un référendum sur l'autodétermination en Algérie. Et là, c'est Soustelle qui se sent trahi d'une certaine façon parce que pour lui, l'Algérie doit rester française et De Gaulle est son mentor. Et donc ces deux choses-là, tout d'un coup, ne sont plus compatibles entre elles.
Oui, c'est comme si ces deux trajectoires-là, elles s'étaient entremêlées pendant longtemps. Et là, visiblement, on est passé à autre chose. De Gaulle, dès 58, a le souci de pas trop de confier de responsabilité à Soustelle. Hein, et on lui confie des choses, mais on essaie de pas trop lui confier de pouvoir en Algérie. Et puis De Gaulle, bien sûr, à partir de 59, évolue dans ce qu'il souhaite pour l'Algérie, pour le futur. Et Soustelle, bien sûr, ne le suit pas. Donc 59, il est pas le seul au sein du mouvement gaulliste, mais bien sûr, Soustelle reste au gouvernement jusqu'en février 1960, mais bien sûr, il commence à voir qu'il y a un problème. Voilà, ces deux objectifs ne sont plus compatibles et il a clairement choisi entre les deux. Il a choisi le maintien de l'Algérie française sur le soutien à De Gaulle.
Soustelle s'oppose donc à son ancien mentor, comme on l'entend dans cette déclaration du 21 juin 1960.
C'est tout d'abord M. Soustelle qui, interrogé par nos soins à l'issue du colloque de Vincennes, déclarait.
J'ai appris que l'organisation terroriste qui s'intitule Gouvernement provisoire de la République algérienne avait publié un communiqué. Dans ce communiqué, du reste, ces messieurs s'empressent de reprendre le terme de peuple algérien qui a été si malencontreusement employé le 14 juin. On ne dira jamais assez, pour ma part, je le répéterai autant qu'on me laissera le répéter, qu'il n'y a pas de peuple algérien. Il y a en Algérie des communautés qui forment au moins deux peuples, un peuple algérien de culture musulmane, comprenant les Arabes, les Kabyles, les Mozabites, etc., et un peuple algérien de culture française, et qui comprend notamment les chrétiens et les juifs algériens. C'est aux Algériens en tant qu'individus, en tant que citoyens, que la déclaration du 16 septembre avait promis le droit de choisir leur avenir. Cela était formel. Si l'on passe de l'autodétermination individuelle à l'autodétermination collective, on ne peut aboutir qu'à dénationaliser de force ceux qui voudraient cependant rester français. Et de ce fait, on va vers la dictature, vers l'oppression des minorités, et loin de restaurer la paix en Algérie, c'est la guerre civile permanente et endémique qu'on y installe.
Il n'y a pas de peuple algérien, dit Soustelle, c'est de toute évidence une contre-vérité. Comment peut-il dire une chose pareille ?
Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le déni en fait de la situation coloniale et de la manière dont c'est construite et dont s'est développée l'Algérie sous la domination française. Dans l'esprit de Soustelle aussi, ce qui me semble important et il me semble qu'il y fait référence là, c'est que pour lui, le référendum de 1958, celui qui met en place la Ve République et le soutien au retour de De Gaulle en Algérie, vaut approbation par les Algériens, quels qu'ils soient et quelle que soit leur appartenance, à l'Algérie française. Donc c'est souvent l'argument qu'il utilise en disant bah, finalement, il n'y a pas besoin de leur donner l'autodétermination, ils ont déjà voté, ils ont déjà décidé en disant oui au retour de De Gaulle, parce que le retour de De Gaulle, c'était le maintien de l'Algérie française. Et c'est là où il fait ce reproche finalement à De Gaulle, de trahir. En tout cas, c'est un moment intéressant parce que Soustelle, là on est en juin 60, il a voulu démissionner, mais c'est plutôt De Gaulle qui l'a mis dehors peu de temps avant, et il parle. À partir de 1960, il va beaucoup parler pour justifier tout ce qui s'est passé.
Comment est-ce qu'il fait son passage à l'OAS et est-ce qu'au fond, il en est un membre vraiment actif? Est-ce que par exemple, il va aider à commettre des attentats?
Non, on n'a pas de preuve qu'il ait été actif maintenant.
Pour cette raison qu'il quitte la France, on l'a vu au début de l'épisode, parce qu'il a peur
sans
d'être
doute,
arrêté.
Sans doute, voilà, c'est plus par peur, et c'est le moment où, comme vous le disiez au début, voilà, il parle en AUAT avec sa femme pour ne pas être compris. Maintenant, à partir du moment où il va travailler, rencontrer des gens qui font partie de l'OAS, ben effectivement, il va s'exposer peut-être à des risques.
Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il rejoint la clandestinité à ce moment-là ?
Oui, il rejoint la clandestinité en naviguant entre ces différents pays, Belgique, Suisse, Italie, Portugal. D'ailleurs, il se plaît bien au Portugal. On est dans la dictature de Salazar et ça lui convient tout à fait. Donc, on voit aussi que idéologiquement, il a bien évolué et sur le plan politique. Donc oui, il vit, il cherche à effacer ses traces et il rencontre des gens qui sont eux-mêmes poursuivis, qui sont recherchés.
L'exil de Soustel, recherché par la police pour atteinte à la sûreté de l'État, va durer 6 années. En 1968, une loi d'amnistie lui permet de revenir. Petit à petit, il retrouve une place, une légitimité, et sera même élu à l'Académie française en 1984 en tant qu'ethnologue. 2 ans après sa mort, en 1990, son successeur à l'Académie, Jean-François Degnaud, fait une révélation, à même d'éclairer d'une lumière nouvelle les relations entre Soustel et De Gaulle.
En mai 1965, je peux en apporter ici la révélation. C'est pourtant lui qui va faire échouer un attentat préparé contre De Gaulle dans des conditions où celui-ci n'avait aucune chance d'en réchapper. Soustel fait prévenir les services de sécurité alors que ceux-ci ne connaissent pas encore le principe du voyage. En 1965, tuer le général n'est pas dans le sens de l'histoire, ni compte, en fait, n'a aucun sens. C'est seulement de la vengeance. Soustel sauve la vie de De Gaulle.
Difficile de comprendre aussi ce qui se joue avec cette archive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors, encore une fois, bon, c'est une hypothèse. On n'a pas de preuves établies clairement de ça, mais effectivement, c'est un attentat qui était prévu sur la tombe de Clémenceau, en Vendée, je crois. Et sans doute, si cet attentat avait été mené à bien, alors il y a eu beaucoup de projets, bien sûr, eh bien, il avait des chances d'aboutir. Donc, ça nous montre aussi...
Et Soustel, comment savait-il que cet attentat était prévu ?
Sans doute, il a eu, par ses rencontres à l'époque, des connaissances d'actions qui...
Donc, par l'OAS.
Par l'OAS, voilà. Ou pas de manière organique, sans doute, mais par ses rencontres avec des individus qui étaient... on sait, par exemple, qu'il était assez proche de Georges Bidault. Là aussi, quelqu'un qui a beaucoup évolué, avec qui ils ont créé un nouveau Conseil national de la Résistance. Et puis, rencontré des membres notoires de l'OAS. Donc peut-être qu'il y a eu des informations qui ont circulé à ce moment-là, dont il a eu connaissance.
Après l'épisode algérien, qu'est-ce qu'il restait, selon vous, de l'homme de gauche en lui, Étienne Augry ?
Ce qui se passe à partir de 68-69, c'est qu'on a l'impression qu'il rentre un petit peu dans le lit de la rivière. On a l'impression qu'il retrouve un positionnement moins passionné, moins violent. Hein. C'était quand même, voilà, l'Algérie finalement l'a conduit à très très loin dans son engagement. Et voilà, son admission à l'Académie française est un signe de ça. Il est redevenu plus consensuel. Sans doute son positionnement n'est plus du tout celui d'un homme de gauche à ce moment-là. Il a évolué, il a côtoyé d'autres personnes qui avaient des orientations différentes. Par contre, il écrit des choses très intéressantes. Il y a un livre qui s'appelle 28 ans de gaullisme qui publie à la fin des années 60, dans lequel il a un regard vraiment intéressant sur la personnalisation du pouvoir et l'évolution ce qui est devenu la 5e République finalement, et qu'il va critiquer. Donc à ce titre-là, c'est pas une critique proprement de gauche, mais qui rejoint celle du Mitterrand, du coup d'État permanent de 64 en quelque sorte.
Si Jacques Soustel s'est raidi en refusant l'idée d'une indépendance de l'Algérie, ce ne sera pas le cas de Jacques Chevalier, maire d'Alger entre 1953 et 1958. C'est même le mouvement inverse qu'il a accompli, puisqu'il s'est assoupli au fur et à mesure des années jusqu'à devenir un militant de cette indépendance. Comment ce revirement s'est-il opéré ? C'est ce que nous allons voir au cours de l'épisode qui suit.